Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Quelques mots du programme que nous vous proposons pour ce soir. 18h15, quand En Marche se prend les pieds dans le voile, le parti présidentiel a investi une femme, voilée donc dans un canton de l'Hérault. Ça fait polémique, y compris au sein de la majorité. Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, a choisi RTL Soir pour venir s'expliquer. Rendez-vous donc dans un quart d'heure. 18h30, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière, suivi d'une autre impertinence, celle de Fogg, Franz-Olivier Gisbert, qui viendra nous parler de son tout dernier livre. Bonsoir Aude Vernuccio.
Bonsoir Vernuccio, Thomas.
Pardon.
Bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mercredi 11 mai.
Chasse à l'homme dans les Cévennes. Il est activement recherché après avoir tué un collègue et son patron dans le Gard. Un hommage national rendu à Éric Masson, abattu à Avignon. On fera le point sur l'enquête. Et puis la vaccination pour tous est lancée. Galère pour les prises de rendez-vous sur Internet.
La météo, Peggy Branche, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, nous aurons... Vous avez prévenu que c'était un défilé cette semaine, et bien donc de nouvelles perturbations.
Exactement, elle va arriver par le nord-ouest et donner beaucoup de pluie le matin entre la Bretagne et la Vendée. Entre la Normandie et le sud-ouest, un ciel nuageux, quelques pluies éparses. Et à l'est, là, vous allez profiter d'un temps sec, lumineux, même bien ensoleillé entre la Méditerranée et la Corse avec du vent. Et dans l'après-midi, les pluies vont gagner le sud-ouest avec des orages. Les températures, elles vont remonter, mais elles seront toujours un peu fraîches pour la saison, comprises entre 11 et 20 degrés. Et sachez que le Gard et les Bouches-du-Rhône sont actuellement en vigilance orange cru.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Cette traque dans les Cévennes, un homme a tué par balle un collègue et son patron ce matin en arrivant au travail. Ça s'est passé dans une scierie du Gard. L'homme a pris la fuite. Hélicoptère, GIGN et près de 200 gendarmes sont mobilisés. Hugo Hamelin, vous êtes sur place dans le village des Plantiers pour RTL.
Absolument, Aude, au milieu des Cévennes gardoises, des collines boisées, escarpées que le tireur présumé connaît par cœur. Cet homme de 29 ans aurait donc abattu de plusieurs balles dans la tête son patron et un autre employé de 32 ans qui tentait de le désarmer à l'heure de pointer ce matin dans cette petite scierie où il était employé depuis quelques mois seulement. Un conflit à propos des horaires de travail est évoqué par le procureur d'Alès pour expliquer la genèse de ce coup de folie.
La personne soupçonnée est un tireur sportif, donc il y avait une détention d'arme pour l'arme qui a été a priori utilisée pour la commission des faits. À part ça, il n'est pas connu pour des violences, mais il avait un comportement depuis quelques temps assez inquiétant, de type paranoïaque. Il est en fuite, il est recherché par des moyens importants de la gendarmerie nationale.
En effet, des équipes cynophiles au sol, plusieurs hélicoptères qui survolent la zone. Tout le village est bouclé. Des négociateurs du GIGN sont descendus de Paris pour tenter d'obtenir une reddition. La compagne du suspect est actuellement avec eux. La technique de la section de recherche de Nîmes, c'est d'encercler une large zone boisée, de resserrer le piège au fil des heures. L'homme possédait de nombreuses armes à son domicile, ce qui explique l'importance du dispositif mis en place par les enquêteurs.
Hugo Hamelin dans le Gard pour RTL. C'était un moment poignant cet après-midi à Avignon. Hommage national rendu à Éric Masson, ce policier abattu il y a 5 jours maintenant sur un point de deal.
Un policier exemplaire, selon le Premier ministre Jean Castex, qui a présidé la cérémonie avant de lui remettre la Légion d'honneur à titre posthume. L'un des collègues du brigadier lui a rendu un vibrant hommage.
Tu as toujours démontré ton courage et ta détermination, notamment dans la lutte contre la délinquance ou le maintien de l'ordre. Tu n'étais pas seulement un excellent fonctionnaire de police, mais aussi un collègue humble, discret, toujours à l'écoute, toujours prêt à rendre service, toujours de bons conseils. Beaucoup plus qu'un collègue, tu étais un ami, tu étais un frère.
Propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Sur le plan de l'enquête, 2 des 4 personnes interpellées vont être déférées dans la soirée en vue d'une mise en examen, dont le tireur présumé et son complice. Étienne Baudu, vous avez de nouvelles informations ce soir?
Oui, alors tout d'abord, Iliès, le tireur présumé, a été formellement reconnu par le collègue d'Éric Masson avec lequel il intervenait mercredi sur le plan stup. Reconnu hier lors d'un tapissage de photos, c'est un élément évidemment essentiel. Et puis, il semblerait que cet après-midi, le complice du principal suspect ait changé sensiblement de version. Alors qu'il niait jusqu'à présent avoir été sur place avec lui, il aurait indiqué aux enquêteurs qu'il était bien à ses côtés tout en continuant d'affirmer qu'il ne pouvait pas identifier le tireur. Une audition qui met donc à mal la défense principale du tireur présumé qui reste campé sur sa version. Au moment des faits, il était chez sa mère. Du coup, les enquêteurs semblent vouloir battre le fer quand il est chaud et se sont donc donné 3 heures de plus pour entendre les deux suspects. La présentation au juge d'instruction a été repoussée à 19h et l'avocat d'Iliès reconnaît que de nouveaux éléments ont été présentés à son client et qu'il devrait peut-être changer de stratégie de défense tout à l'heure devant le juge.
Étienne Baudu à Avignon a noté que les deux autres gardes à vue ont été levés.
RTL Soir, il est 18h05. La vaccination pour tous avancée de 24 heures. Concrètement, ça veut dire que depuis ce matin, vous pouvez réserver un créneau sur Doctolib pour ce soir ou pour le lendemain. C'est pour tout le monde ou presque.
Le seul critère, avoir plus de 18 ans, ça, c'est la théorie, Thomas. Mais en pratique, Agnès Bonfillon, il faut s'accrocher. Vous avez suivi Lorraine, une jeune fille de 25 ans.
Et au départ, ça a l'air plutôt simple. Beaucoup de créneaux s'affichent dans une dizaine de centres en Île-de-France. De quoi y croire?
Alors là, je fais que cliquer. Ouh, j'en ai un qui vient de se libérer demain à 9h10. Ah, il est plus disponible. Oula, il y a un autre créneau. Bon, à chaque fois que je clique, le rendez-vous n'est plus disponible. On réactualise, on sait jamais. Ah, 10h30 demain, non. Ça va tellement vite.
Ah oui, mieux vaut être rapide, concentré. Et même là, ça n'empêche pas les fausses joies.
Je lis vraiment en diagonale. J'ai peur que ça me passe sous le nez. Il faut que je crée un compte sur quel doc. Ça va me retarder, ça. En vrai, je stresse un peu. C'est débile, mais prendre rendez-vous, j'ai très peur. Ah voilà, plus disponible à cette horaire. C'était sûr.
Au bout d'une heure et une centaine de tentatives, Lorraine décide de changer de stratégie. Elle clique à un rythme effréné.
Là, ça y est, j'ai cliqué sans regarder. Oh là, mon rendez-vous est confirmé. Demain, 9h55.
Et donc c'est à...
C'est à Montmorency, je ne sais même pas où c'est. Oh, ça va. 92 minutes. Une heure et demie, quoi.
Autant vous dire qu'après ce rendez-vous chez Lorraine, oui, c'était un peu l'ambiance, résultat du bac.
Je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Go Montmorency demain.
Go Montmorency demain.
Explication signée Agnès Bonfillon pour RTL.
Alors, elle a un rendez-vous pour la première dose, il y aura la deuxième dose. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment adapter ses vacances à ce rendez-vous de vaccination? En fait, la règle, elle est simple, c'est la suivante. La deuxième dose devra avoir lieu, en principe, et avant que ça change, dans le centre où la première a été faite. C'est ce que précise ce soir le ministère de la Santé.
Côté gouvernement, on incite d'ores et déjà au tourisme Made in France pour cet été, avec une campagne lancée aujourd'hui. Deux axes, attirer les touristes européens et donner envie aux Français de découvrir leur belle région. Le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a sorti son petit carnet de slogans. Il n'a pas manqué d'idées, Marie Guerrier.
Oui, c'est le bon moment pour se projeter vers l'été. Un été bleu, blanc, rouge, dit Jean-Baptiste Lemoyne, avec un message pour les touristes.
Nous voulons les convaincre que faire le choix de la France, c'est faire le meilleur choix. Tout simplement parce que, finalement, la France, c'est un peu le monde en miniature. C'est 50 nuances de vacances, libres à chacun de choisir. Bah, c'est le retour à la vie. Et ce retour à la vie, il doit se faire ici et maintenant en France.
Alors la campagne intitulée Explore France vise à faire venir les touristes européens avec la promesse de trouver en France tout ce qui compte vraiment. What really matters, ça c'est le slogan officiel. 10 millions d'euros de budget, une campagne nationale déclinée par région avec une forte offensive sur les réseaux sociaux, des pubs ciblées pour les familles, les couples sans enfants, les jeunes, les seniors. Nature, culture et patrimoine, art de vivre et gastronomie, ce sont les grands thèmes. Une promotion particulière aussi de la montagne pour amortir le choc de la fermeture pendant toute la saison hivernale.
Ils vont rouvrir. Voilà, oui. Ça a été annoncé.
Oui, là, bientôt.
Absolument.
Alors, il y a aussi la campagne intitulée « Je redécouvre la France » qui cible les vacanciers français. Jean-Baptiste Lemoyne ne cache pas qu'il aimerait que l'argent économisé par les Français pendant cette année de restrictions Covid soit réinjecté dans le tourisme en France. Et de conclure.
On a traditionnellement le réflexe crème solaire. Cette année, je propose un combo crème solaire et gestes barrières. Voilà. Et avec cela, l'été se passera bien.
Les précisions de Marie Guerrier pour RTL.
Ça, c'est la punchline. Allez.
Et avant l'été, cap sur le week-end de l'Ascension. Pourquoi pas? La SNCF attend 1 million de voyageurs dans les gares pour le pont. 8 TGV sur 10 en moyenne seront en circulation.
On marque une petite pause et ensuite on va du côté de Montpellier avec cette candidate voilée qui crée la polémique dans la majorité En Marche.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, la suite du journal Aude Vernuccio avec cette affiche donc qui divise au sein de La République En Marche. On y voit, affiche pour les cantonales, une candidate voilée, ça se passe dans l'Hérault.
Dès hier soir, le numéro 2 du Rassemblement national, Jordan Bardella, l'a dénoncé dans un tweet. Le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, a menacé de retirer l'investiture à cette liste. La majorité présidentielle se déchire, tant au niveau national qu'à Montpellier, Patrick Tégéraud.
Mahfoud Ben Ali est encore pour l'instant le candidat à l'REM dans le canton 1 de Montpellier, même s'il a l'intention de résister à la direction du parti.
Ah, faudra, je n'en aurai pas, bien sûr. Ah non, je n'en aurai pas. On ne va pas demander à Sarah de s'effacer.
J'ai l'impression que Guérini s'est fait piéger par le Rassemblement National.
Je pense que là, c'est une erreur, soit de tweet, j'en sais rien.
Il a
fait une bêtise pour moi.
Mais pour le député LREM local, Nicolas Desmoulins, ce sont ses candidats qui ont fait une grave erreur.
Juridiquement, c'est autorisé, mais le sujet n'est pas en termes juridiques, ce sujet est politique et je trouve que le fait religieux n'a pas à être présent lors d'une campagne électorale. Il faudra retenir qu'il faudra, à mon avis, être un peu plus vigilant, plus dans la clarté.
Alors Mahfoud Ben Ali a le sentiment d'être trahi par celui pour lequel il a fait campagne.
Nous, on fait de la politique par conviction. On travaille, tout le monde travaille, un boulot. Et malheureusement, il y en a qui font de la politique leur carrière. Ce n'est pas notre cas. On veut lutter contre l'abstention. Ça fait dans les quartiers. C'est contre ces pratiques-là qui vont faire qu'on aura 90% d'abstention.
Mahfoud Ben Ali est certain que le président de la République aurait approuvé son choix d'affiche.
Patrick Tégéraud dans l'Hérault, et on en parlera dans quelques minutes donc avec Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche.
L'actualité à l'étranger. Paris appelle Israël à un usage proportionné de la force. Depuis 4 jours, Jérusalem est le théâtre d'affrontements entre fidèles palestiniens et policiers israéliens. Des centaines de roquettes ont été échangées entre la bande de Gaza et Israël. 20 morts côté palestinien, 2 femmes tuées côté israélien. Benjamin Netanyahou promet d'intensifier les attaques contre le Hamas. Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem.
Oui, alors que Jérusalem a retrouvé un certain calme aujourd'hui, les tensions, effectivement, comme vous le disiez, se sont concentrées autour de la bande de Gaza. Le Hamas a lancé des dizaines de roquettes vers les villes israéliennes d'Ashdod et d'Ashkelon, faisant 2 morts, 80 blessés et des dégâts considérables. Le sud d'Israël n'avait pas connu une telle violence depuis 3 ans. En riposte aux tirs de roquettes, l'armée israélienne a mené plusieurs raids dans la bande de Gaza. En ce moment même, elle mène une attaque qualifiée de massive par l'état-major. Il y aurait, comme vous le disiez, au moins 20 morts côté palestinien. Ailleurs dans le pays, les citoyens arabes d'Israël ont participé à des émeutes, mettant par exemple le feu à une synagogue à Lod, près de Tel Aviv. Alors que la situation dégénère, l'Égypte se dit prête à jouer les intermédiaires pour obtenir un cessez-le-feu. Mais pour l'instant, aucun des belligérants ne semble prêt à mettre fin aux hostilités.
Stéphane Amar, en direct de Jérusalem pour RTL.
C'est une tradition, on va s'y tenir, mais elle n'est pas facile à aller chercher, c'est...
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Il faut y aller avec les dents en ce moment pour trouver les bonnes nouvelles.
Mais il y en a. On vous avait annoncé une saison 2 de la série Lupin sur Netflix. On connaît maintenant la date. Ce sera le 11 juin, dans un mois tout pile, que vous reverrez Omar Sy sur le petit écran.
Je suis agent d'entretien au Louvre.
C'est un bon job de merde, ça.
Ça dépend. Les œuvres d'art que je nettoie, elles valent des millions. Je les ai apportées demain, tous les soirs.
Mais moi, je vois toujours pas arriver mon pognon.
Mais il arrive.
Omar Sy dans la peau du gentleman cambrioleur. Rendez-vous dans un mois. Une série visionnée par 70 millions de personnes dans le monde.
Eh bien, nous y serons. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. Cacher ce voile que Stanislas Guérini ne saurait voir sur une affiche de son parti. On l'évoquait à l'instant. Le délégué général de La République En Marche est l'invité d'RTL Soir tout de suite et en direct.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est le délégué général de La République En Marche et il est député de Paris. C'est Stanislas Guérini qui est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Stanislas Guérini.
Bonsoir, Thomas Soto.
Comment ne pas être ému, touché, bouleversé, révolté par cette image, ce portrait d'Éric Masson, porté par ses collègues cet après-midi dans la cour de la préfecture du Vaucluse à Avignon, lors de l'hommage national qui a été rendu à ce policier, cet homme de 36 ans, ce papa de 2 petites filles. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays, Stanislas Guérini, pour que l'on en arrive là, pour qu'en quelques jours, Stéphanie Monfermé, fonctionnaire au commissariat de Rambouillet, se fasse assassiner par un djihadiste, puis qu'à Avignon, Éric Masson se fasse abattre comme un chien lors d'une interpellation? Peut-on se contenter de dire que ce sont là les risques du métier?
Non, bien sûr que non. On peut pas se contenter de dire ça. D'abord, il faut partager l'émotion de la famille. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Avignon qu'on était ému. C'est notre pays tout entier qui était ému et qui associait ses pensées à la famille de ce policier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions, qui est mort en faisant son métier, en luttant contre les trafiquants de drogue, en nous protégeant d'une certaine façon et en protégeant nos enfants. Donc nous, on ne peut pas se contenter de dire ça ou d'être simplement ému.
Mais qu'est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce que vous avez raté ? Qu'est-ce que les gouvernements successifs ont raté ?
Il faut avoir beaucoup d'humilité sur ces questions-là. Ce n'est pas en un jour qu'on règle les difficultés de sécurité, qu'on met fin au trafic de drogue, qu'on met fin au l'islamisme, qu'on met fin aux pensées folles, criminelles et séparatistes. C'est une action résolue et continue. Ce sont des moyens qu'il faut apporter. Ces moyens, ils ont trop souvent manqué aux forces de police. Nous sommes en train de leur redonner. Mmh. Et c'est extrêmement important, il faudra le faire sur la durée. C'est aussi de la continuité entre ce qui se passe dans la police et ce qui se passe dans la justice. Ce sont des moyens pour la justice et ce sont aussi l'adaptation de nos droits pour qu'on puisse juger plus rapidement, plus fermement ceux qui notamment tue des policiers aujourd'hui.
Et en même temps,
c'est tout cela que nous allons continuer à faire.
L'insécurité, Stanislas Guérini, c'est un sujet de campagne récurrent à chaque présidentielle. Et une nouvelle fois, on sent que le thème va être au cœur de la présidentielle de 2022.
Mais ce n'est pas parce que c'est un sujet de campagne qu'il faut s'en emparer. C'est parce que c'est ce que vivent nos concitoyens dans leur quotidien.
Et oui, parce qu'il y a un décalage entre les promesses de campagne des uns et des autres et la réalité de terrain que l'on voit et que l'on décrit, notamment quand elle est tragique.
Bien entendu. Et c'est aussi vrai pour l'insécurité du quotidien. L'insécurité, j'ai envie de dire, du point de deal à côté de chez soi. Et chaque député, je crois, en connaît dans sa circonscription que pour les crimes les plus affreux, comme nous les avons vécus ces derniers jours.
Mmh. Mais ce sujet de l'insécurité ne mérite-t-il pas mieux, Stanislas Guérini, que les échanges d'invectives permanents auxquels on assiste entre le Rassemblement National et La République En Marche ?
Je crois que, d'une certaine façon, aucun sujet ne mérite de tomber dans ce que sont parfois les affres de la vie politique. Moi, si je me suis engagé dans la vie politique, c'est pour avoir des résultats, pour pas tomber justement dans ce qui faisait la vie politique traditionnelle où chacun est sur son ring, met des bourre-pifs à l'autre et au fond,
mais là,
rien n'avance.
Vous y participez, vous, la République En Marche, vous y participez.
Il faut défendre, évidemment, la politique qui est menée. Elle est attaquée, tout le monde, d'une certaine façon, concentre ses attaques sur la majorité. Nous agissons, nous ne sommes pas dans la parole, nous agissons pour fermer les lieux de culte qui ne respectent pas les principes de la République, nous agissons pour remettre des moyens sur le renseignement territorial, nous agissons pour créer des places, des postes de policiers, nous agissons pour leur donner des moyens.
Mais
nous
en
adaptons
même temps,
notre droit.
On a eu
tout ça, c'est de l'action, ce ne sont pas des paroles.
On a eu aujourd'hui une illustration des pièges que vous vous tendez les uns les autres en permanence. Jordan Bardella, numéro 2 du Rassemblement National, a tweeté une affiche montrant des candidats en marche dans un canton de Montpellier. Sur cette affiche, on voit une de vos candidates qui porte le voile. Vous avez répondu sur Twitter au vice-président du Rassemblement National pour rappeler les valeurs de La République En Marche. Stanislas Guérini, cette femme, Sarah Zemahi, qui est voilée sur votre affiche, a-t-elle sa place sur une liste En Marche ?
Moi, j'ai dit les choses très clairement. Je suis le dirigeant de La République En Marche et avec les instances dirigeantes de ce mouvement politique, je fixe une ligne politique. La ligne politique, quelle est-elle ? Elle n'est pas de remettre en cause le droit. Le droit dans
parce
notre
qu'on
pays,
a le droit de se présenter en étant voilé aujourd'hui.
Chacun peut se présenter avec.
Vous voulez pas changer la loi ?
Je ne veux pas changer la
vous
loi.
Pas
je veux dire
loi.
Les choses précisément et clairement à votre micro. En revanche, la loi, elle dit aussi que les partis politiques, les mouvements politiques peuvent décider du soutien qu'ils apportent à des candidats. Et en l'occurrence.
Pardon, mais elle n'est pas tombée toute seule sur l'affiche. Elle est investie par votre mouvement politique.
Je vais vous répondre très clairement. Notre mouvement politique considère, c'est sa ligne politique, que les signes religieux ostentatoires n'ont pas leur place sur les affiches de campagne dans le cadre d'une campagne électorale. C'est la ligne de notre mouvement politique et je crois qu'elle est extrêmement claire.
Donc
ce n'est
femme,
pas une question de remettre en
cette
cause le droit.
Ne sera pas candidate
pas,
en marche.
Non, elle ne sera pas soutenue par La République En Marche.
Vous allez lui enlever son investiture.
Oui, c'est le dialogue qu'il y a eu avec les candidats aux élections départementales dans ce canton-là pour leur dire soit vous pouvez changer vos documents de campagne, parce que moi je considère encore une fois que dans le cadre d'une campagne politique, on n'a pas à afficher un signe religieux ostentatoire, quelle que soit la religion. Je veux le dire extrêmement clairement ici, que ce soit une kippa, que ce soit une croix apparente, que ce soit un voile, quelle que soit la religion. Parce que quand on est dans le cadre d'une campagne électorale, c'est un message politique qui est passé. Alors, et moi, je ne souhaite pas, parce que les valeurs qu'incarne ce mouvement, oui. La République En Marche que je représente, sont des valeurs universalistes. Je ne souhaite pas que la clé d'entrée dans une campagne soit une clé d'entrée de différenciation,
sauf que tout le monde,
singulièrement
sauf que tout
sur
le monde,
une religion donnée.
Sauf
et
que
donc,
tout le monde dans votre parti,
avons,
pardon,
je termine d'une phrase, dès lors que nous avons appris et vu que les documents de campagne que prévoyaient ces candidats afficher un signe religieux ostentatoire, alors j'ai dit les choses le plus clairement possible.
Sauf que cette affaire provoque remous et division dans votre propre majorité. Écarter cette candidate serait une discrimination, a dit la députée du Val-d'Oise En Marche, Naïma Moutchou. Je voudrais aussi vous faire entendre ce que disait tout à l'heure la députée de l'Hérault, Coralie Dubos, République En Marche, là encore, c'était sur Radio J.
C'est l'un des rares points où je suis en désaccord avec mon parti politique. Il se trouve que je connais cette candidate, Montpellier-Rennes. Lorsque vous avez une femme, une jeune femme, ingénieur qualité, qui fait des heures de soutien scolaire en bénévolat, en quartier populaire, sur son temps libre, qui s'engage politiquement dans un parti pour porter des valeurs progressistes, des valeurs libérales, qui soutient la loi des valeurs républicaines. Moi, je trouve qu'au contraire, cette femme, qu'elle soit valet ou non, a toute sa place chez nous.
Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Elle a raison de dire que c'est un des points de désaccord qu'on peut avoir, on peut les assumer, et que, en l'occurrence, la ligne de La République En Marche, elle est fixée dans les instances dirigeantes de ce mouvement. Les instances dirigeantes sont unanimes pour dire qu'effectivement, les signes religieux ostentatoires n'ont pas leur place sur une affiche électorale.
On ne peut pas être voilé et républicaine.
Justement, c'est justement sur ce point-là que je voudrais vous répondre.
Alors,
parce que, évidemment, la réponse à votre question, c'est oui, on peut être voilé et républicaine.
Ça a l'air d'être le cas de cette femme, la connaît Coralie Dubos.
Exactement, et c'est pour ça que je voulais préciser que je n'ai absolument rien contre cette candidate. Je ne lui interdis d'ailleurs pas d'être candidate elle-même sans le soutien de La République En Marche, et je ne lui interdis surtout pas, et à personne, de pouvoir vivre librement sa religion. Et je crois que c'est très important. Il y a d'ailleurs bon nombre de candidats investis par La République En Marche qui affichent des signes de religion dans leur vie. Je ne suis pas du tout pour changer la loi sur la possibilité d'avoir des signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Mais dès lors qu'on est dans le cadre d'une campagne électorale, qu'on se présente pour un mandat, pour représenter tous les électeurs, eh bien je considère qu'il faut retirer les signes religieux de cette campagne électorale.
Mais ça ne veut pas dire qu'on est présumé séparatiste quand on a un voile.
Évidemment non. Évidemment non, Thomas Soto. Et merci de me poser la question pour que je puisse dire les choses avec
beaucoup
de clarté.
Vous êtes là pour clarifier les choses.
Je crois
que c'est important pour une partie de votre famille politique qui est un peu en désaccord. Et ça dit, Saïssa Guérini, j'entends votre discours.
Pardon, je vous coupe une seconde.
Je vous en prie.
Ce que je vous dis aujourd'hui, ça n'a rien d'exceptionnel. Bon nombre de formations politiques avaient exactement la même ligne pendant des années. Je me souviens des propos de Martine Aubry.
Ok. Ça c'est les éléments d'engage que tout le monde reprend chez vous. Marlène Schiappa, Aurore Berger, vous êtes mis d'accord. La phrase de Martine Aubry qui a été retweetée par Mélenchon.
Mis d'accord. C'est simplement les faits. Et je crois que c'est important aussi de les rappeler.
Moi, je vous donnerais bien une référence un peu plus récente. C'est Emmanuel Macron, dans son discours des Mureaux contre le séparatisme. La laïcité, ça ne veut pas dire que la société doit effacer toute trace de religion.
Et il a parfaitement raison.
Mais pas sur les affiches.
Et c'est ce que je suis en train de vous dire exactement ce soir. On peut tout à fait vivre sa religion librement, y compris avoir une kippa, un voile, une croix dans l'espace public. Mais dès lors qu'on se présente à une élection, moi, je ne veux pas que le message politique qui soit passé, ce soit un message de différenciation, parce que les valeurs que défend mon mouvement politique, ce sont des valeurs d'universalisme.
Il n'y a pas un petit problème de vérification des listes chez En Marche quand même, un petit problème de sérieux, de rigueur dans la sélection des candidatures? C'est quand même curieux que vous appreniez ça par un tweet de Jordan Bardella, non?
Non, je merci là aussi de me poser la question.
Vous pouvez le remercier,
je comprends. Évidemment, je n'ai pas appris ça par un tweet de Jordan Bardella, et je vais vous dire si j'ai un regret dans cette affaire, c'est d'avoir répondu à Jordan Bardella. Voilà, je vais vous dire les choses simplement, parce que à aucun moment j'ai été touché par les messages que j'ai reçus. À aucun moment je ne veux laisser penser qu'il puisse y avoir la moindre collusion de pensée entre ce que nous défendons, La République En Marche, et ce que porte le Rassemblement National. Parce que pour être très clair sur ce sujet-là, le Rassemblement National porte une vision dévoyée de la laïcité. Mmh. On a bien compris qu'à chaque fois qu'il parle de laïcité, c'est pour, en réalité, en faire une arme contre l'islam. C'est exactement ce qu'a fait Jordan Bardella.
Et on est reparti dans le ping-pong entre La République En Marche et le Rassemblement National.
Ce sont les pièges dont vous parliez tout à l'heure, Thomas Soto. Mais
j'ai deux questions pour finir.
Nous avons agi tôt. Nous avons découvert en effet que ces documents de campagne étaient en préparation, et dès lors que nous l'avons découvert, nous avons demandé aux candidats de changer leur position.
J'ai deux questions. Une sur les régionales, rapidement parce qu'on est au bout. Y aura-t-il, oui ou non, et de manière absolument définitive, une liste En Marche portée par Sophie Cluzel en région PACA?
Moi, ce que je l'ai dit très clairement, c'est que la majorité présidentielle, elle serait présente dans toutes les régions de France.
Donc il y aura une liste portée par Sophie Cluzel?
Dans toutes les régions de France, la majo sera représentée. Et je fais confiance à Sophie Cluzel, que nous avons investi depuis le démarrage, qui a rassemblé la majorité présidentielle.
Pour être clair, ça veut dire qu'il y aura une liste En Marche, ou il pourra toujours y avoir une liste Muselier-Cluzel
qui conduit une campagne aujourd'hui avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de courage, et donc elle portera la liste de la majorité présidentielle. C'est ce que nous avons indiqué ces derniers jours.
Donc il y aura une liste Sophie Cluzel en tête de liste.
Mais écoutez, en tout cas, soyons très clairs.
Vous êtes fort ni oui ni non.
Je joue à ça avec mes enfants parfois, mais j'essaie de ne pas le faire avec vous à ce micro.
J'aime autant.
Qu'est-ce que nous avons porté depuis le début dans cette campagne? La possibilité de mener des rassemblements dans l'intérêt des régions et dans la clarté politique, c'est-à-dire avec la majorité présidentielle. Il s'avère que Renaud Muselier, nous avons tendu la main pour faire cela. Nous l'avions accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'appareil politique des Républicains est venu torpiller toute possibilité de mettre un peu justement les étiquettes partisanes de côté. Moi, je le regrette. Je le regrette, je le dis extrêmement clairement, parce qu'il y avait là la possibilité de bâtir un rassemblement. La condition, la porte s'est fermée. C'est ainsi, la majorité présidentielle sera présente, comme dans toutes les régions de France.
Un peu plus au nord, même beaucoup, beaucoup plus au nord dans les Hauts-de-France, Éric Dupond-Moretti sera sur la liste En Marche. Il sera à quelle place exactement ?
Il sera tête de liste dans le Pas-de-Calais.
Donc tête de liste départementale.
Du département, c'est ça. Aux côtés de Laurent Pietraszewski, qui est notre candidat pour l'élection
régionale.
Est-ce
que c'est souhaitable qu'un ministre aussi important que le garde des Sceaux, dans la situation du pays dont on parlait au début de cette interview, vous parliez des besoins de justice, du travail important à faire entre la justice et le ministère de l'Intérieur, est-ce que c'est souhaitable qu'un ministre aussi important que le garde des Sceaux cumule son portefeuille ministériel et un mandat de conseiller départemental.
Et d'ailleurs, il en fait la démonstration en ce moment même tous les jours, puisqu'il défend un texte au Parlement. À aucun moment, cela ne l'empêchera d'agir.
Ensuite, est-ce qu'un ministre prenne son temps, soit il ne sera pas 24 heures sur 24 sur le ministère de la Justice, soit il ne s'occupera pas de son mandat départemental.
Mais vous pouvez
les mêmes journées,
juger
tous.
Sur pièce, si je puis dire, par l'action qui est la sienne. Est-ce que Éric Dupond-Moretti a été moins présent sur ces dossiers à l'Assemblée nationale pour défendre la politique du gouvernement, une seconde, ce n'est pas le cas. Il a été ce week-end, effectivement, faire campagne, c'est-à-dire faire ce qu'il y a de plus important dans la vie politique, se confronter au scrutin, c'est toujours courageux
pour vous,
de
y a
le
pas
faire, et se confronter au jugement de nos concitoyens. Eh bien, c'est une belle manière que de faire de la politique, et moi je me réjouis, parce qu'il apporte beaucoup dans cette campagne, aux côtés de Laurent Pietraszewski, pour la majorité présidentielle, et contre le Rassemblement national.
Ah bon, on y revient encore. Stanislas Guérini, dernière question. À l'instant, on apprend que l'Assemblée nationale a voté contre le pass sanitaire. En Marche a visiblement été lâchée par le Modem.
Je le regrette, parce que moi je suis résolument favorable à l'instauration du pass sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il va nous permettre de recouvrer nos libertés plus rapidement.
C'est quand même un sacré coup de théâtre. C'est pas neutre. La majorité mise en minorité sur la question du pass sanitaire.
Sincèrement, je ne peux que le regretter. Parce que je pense que le pass sanitaire, honnêtement, c'est une bonne chose pour nos concitoyens, c'est une bonne chose pour recouvrer nos libertés plus rapidement. Donc, nous aurons peut-être l'occasion d'en rediscuter. Après les premières lectures, il peut y avoir des deuxièmes lectures à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faudra trouver un moyen d'instaurer cet outil qui sera un outil déterminant dans la sortie de crise.
Et ça vous inquiète sur l'état de la majorité Modem En Marche ?
Non, sincèrement, je ne le crois pas, parce que à chaque fois, on a pointé telle ou telle division, et sur l'essentiel, nous avons toujours été rassemblés. C'est le débat parlementaire, ainsi va la vie parlementaire.
Merci beaucoup, Stanislas Guérini, d'être venu ce soir dans RTL Soir. À suivre l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir, Philippe.
Oui, bonsoir, Thomas.
Et oui, ce soir, exceptionnellement, vous n'êtes pas présent en studio, Philippe.
Et non, ben non, comme toutes les stars des grandes radios de France, je suis qu'à contact d'Yves Calvi. À nous, à RTL, quand on veut faire du mal à la concurrence, on va pas que chercher les auditeurs. Bim ! On balance l'arme bactériologique. Strike dans les matinées.
Oui, mais quand on balance l'arme bactériologique, faut pas s'apprendre sur soi-même, mon cher Philippe.
Il faut expliquer à Calvi que je suis pas la concurrence.
Ah oui, enfin. C'est ça. Allez, à tout de suite après le rappel des titres.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Et Aude Vernuccio pour le rappel des titres.
200 gendarmes, le GIGN et des hélicoptères mobilisés dans les Cévennes. Un homme est activement recherché après avoir tué par balle ce matin un collègue et son patron. Il était connu des services de police pour un conflit avec le maire de son village. Aux assises de Savoie, dans le procès de Nordal-Lelandais, la cour et le jury se sont retirés pour délibérer. L'homme est accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017. L'avocat général a requis 30 ans de réclusion. En revers, pour la majorité lâché par le Modem, l'Assemblée nationale vote contre le pass sanitaire censé stocker le certificat de vaccination et votre dernier test PCR, un dispositif envisagé par le gouvernement pour les grands événements publics ou encore les voyages. Et puis les signes religieux ostentatoires n'ont pas leur place sur les affiches de campagne. Réaction sur RTL de Stanislas Guérini après cette polémique dans l'Hérault. Une candidate voilée dans le canton de Montpellier, invitée d'RTL Soir, le délégué général de la République En Marche annonce qu'elle ne sera pas soutenue par le parti présidentiel et qu'elle se verra retirer son investiture.
La météo, Peggy Broche, il pleut sur Nantes, ce sera un temps pluvieux à l'ouest demain.
Exactement, et un temps sec du coup à l'est et plus lumineux. Enfin, ça changera de ce que vous avez vécu ces deux derniers jours, même très ensoleillé entre la Méditerranée et la Corse avec beaucoup de vent. Mais une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest, vous l'avez dit Thomas. Il va bien pleuvoir dès le matin entre la Bretagne et la Vendée. Sur la moitié ouest, beaucoup de nuages et quelques gouttes possibles dans la matinée. Dans l'après-midi, cette zone perturbée, elle va gagner le sud-ouest avec des orages, le tout sous des températures encore timides pour la saison, comprises entre 11 et 20 degrés. Et je rappelle que le Gard et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange cru.
Merci beaucoup, Peggy. À le touriste, Philippe Cavrivière. Philippe, oui. Rebonsoir. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui dans le sud, vous n'êtes pas avec nous en studio.
Je suis en zone de guerre, Thomas.
Good morning, Vienna.
Non, c'est good morning, Fréjus. Contrairement à Élise Lucet, je ne commande pas l'actu. Je la précède, moi, monsieur. Je fais les provisions des embrouilles à 48 heures. Je suis un peu la Peggy Broche de l'émeute. Grosse chaleur sur le quartier de la Gabelle à Fréjus, à noter des précipitations de projectiles. On est dans les normales saisonnières, vigilance cocktail Molotov, mais sortez couvert. Alors je vous conseille, pas le parapluie, mais plutôt le casque.
Vous l'imitez voilà, pas mal, hein. Vous l'imitez pas mal, Peggy. Philippe, vous vouliez revenir sur les violences urbaines à Fréjus. Il y a eu des vitrines brisées, il y a eu des véhicules incendiés. Comment vous avez vécu ça? Parce que vous étiez sur le terrain quand même.
J'étais sur le terrain, écoutez, je l'ai bien vécu, j'étais tranquillement chez moi en train de lire Mein Kampf pour les nuls. À Fréjus, je m'intègre, hein. J'ai les mêmes lectures que les locaux, quand soudain j'ai entendu des explosions. Au début, je me suis dit, merde, les Portugais m'ont retrouvé.
Non, Philippe.
Et finalement, rien à voir. C'était le classico, l'équipe de police contre l'équipe des jeunes de la Gabelle. Fréjus est donc une nouvelle zone de non-droit, Thomas. Mmh. Et vous verrez que quand le Rassemblement National passera en 2022, ce sera autre chose.
Oui, la Gabelle, on va rappeler que c'est un quartier de Fréjus, Philippe. C'est déjà une mairie Rassemblement National, Fréjus.
Ah bon?
Bah oui.
Ah merde.
Eh bah oui,
vous êtes sûr?
Ah oui, oui, oui.
C'est donc chez nous. Je suis un homme meurtri, Thomas.
Ah bon?
Moi qui croyais qu'avec l'élection de David Rachline, toute cette insécurité ne serait plus qu'un lointain souvenir. Si on ne peut plus faire confiance à l'extrême droite, ça m'apprendra à aller coller des affiches pour le RN. Je leur ai donné mes plus belles années, Thomas.
C'est vrai.
Bon, bah, du coup, le RN va devoir critiquer le RN. Parce que ça a été le chaos dans le quartier jusque 4 heures du matin. Comment ces jeunes ont-ils pu oublier le couvre-feu de 19h? Ils ont débordé de 9h. C'est beaucoup.
Oui.
9 minutes. On peut déborder de 9 minutes. On ne peut pas déborder de 9h. Mmh. Et puis moi, je pense aux habitants. C'est quand même pas de bol de se faire brûler sa voiture pile à la fin des restrictions des 10 km. Bon, là, avec un peu de chance, ils ont brûlé une voiture tunée avec un bas de caisse avec des néons bleus et des flammes sur le capot.
À la vôtre.
Voilà. Du coup, c'est pas vraiment un délit. C'est presque un cadeau pour les amoureux de l'esthétique automobile. En revanche, les policiers ont été blessés. Ça, les policiers, on les traite trop mal. Ils se font molester, ils sont mal payés. En fait, en 2021, policier, c'est la même vie que prof, mais avec un casque et un bouclier. Donc, quelque part, c'est moins risqué que prof.
Revenons, si vous voulez bien, sur les causes premières de ces émeutes. Ce quartier serait un point de deal, la Gabelle. Le ministère de l'Intérieur a recensé 3952 points de deal en France.
Et Darmanin a tweeté « C'est inacceptable ». Bon là, c'est 3952 fois inacceptable quand même, ça fait beaucoup. La bonne nouvelle avec tous ces points de deal, c'est qu'il y en a forcément un pas loin de chez vous. À noter que les points de deal sont les seuls commerces qui n'ont pas vraiment respecté la fermeture des commerces non essentiels depuis un an. Mmh. En fait, ces jeunes dealent comme on devrait vacciner, 7 sur 7, 24-24, et quasiment sans rupture de stock, et sans Jean Castex. Faudrait qu'on leur demande comment ils font ces petits génies de la médecine de proximité.
Bon. On va passer à un autre sujet d'actu, même si je suis un peu inquiet, puisque vous tenez à dire quelques mots de la mort de Michel Fourniret.
Oui, Michel, Michou nous a quittés. Bon, on va mettre une petite musique hommage. Bon, une victime de plus, Michel Fourniret a tué Michel Fourniret. Bon, pour mémoire, il a multiplié les crimes dans les Ardennes. Et ça, c'est à mettre à son crédit parce que c'est pas facile de trouver des gens dans les Ardennes. Mmh. Alors, on va pas se mentir, on a assez peu de témoignages aujourd'hui, très peu de copains d'avant pour vanter la bonhomie de Michel. On a juste quelques rares témoignages de fans. Nordal Le Landais qui tweet « Si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à toi Michel. Repose en paix champion. » Christophe Ondelatte qui dit « 8783 émissions sur toi Michel. Tu fais un peu partie de la famille. » et Monique Olivier qui dit qu'est-ce qu'il a pu nous emmerder à Pâques, on n'a jamais retrouvé un chocolat. Bon, c'est vrai que Michel planquait bien et conséquence immédiate du décès de Mimiche, Monique Olivier est célibataire. Alors bon, ça tombe bien pour elle, c'est la réouverture des bars, elle va se retrouver un Jules pour l'été. Bon, vous savez ce qu'on va faire, Thomas?
Moi, avec
on va
vous,
pas
rien.
Dire aux enfants ouais. On va pas dire aux enfants de Fourniret où il est enterré, ils verront ce que ça fait de chercher un corps, ça leur fera les pieds à ces petits cons.
Quelle synthèse, quelle synthèse. Sans transition, parce que là je vois vraiment pas comment on peut mettre une transition.
Il y en a aucune.
Hein, on a beaucoup parlé de François Mitterrand depuis le début de la semaine.
Oui, alors j'étais sur CNews, j'entends parler d'un gars qui a laissé des cadavres, qui a tout détruit, d'un psychopathe. Je me dis tiens, il parle de Ligonnès ou de Fourniret. Et en fait rien à voir, il parlait de Mitterrand et du bilan de la gauche. Bon, j'étais sur l'heure des pros. Il y a des serial killers qui ont été mieux traités. Bon, c'est vrai que François, il a des zones d'ombre. C'était un séducteur. Il aimait pas que les ortolans, si vous voyez ce que je veux dire.
Hein?
Bon, tonton, on lui a prêté des liaisons avec Dalida, Elisabeth Tessier, Anne Pinjot. Il aurait même couché avec Daniel Mitterrand. C'est dire, quoi. Bon, c'est les François socialistes, les gars. Bon, c'est des chiens, quoi. Alors moi, je veux rendre quand même hommage au féministe François Mitterrand. Parce que dans son gouvernement, sur 25 ministres, tiens, question, combien il y avait de femmes sur 25 ministres?
Alors là, ah. J'en sais rien.
Alors?
Je sais pas.
Deux sur 25, voilà. Edith Cresson et Nicole Questiot. Deux sur 25.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Nicole Questiot?
Oui, avec plaisir, mais on va déborder.
C'est sa vie, son nom. Parlez-moi de Nicole Questiot.
Nicole est native de Franche-Comté.
Oui.
Elle est Capricorne, ascendant Verseau.
Oui. Allez, enchaîne. Va.
Elle adore les chouquettes. Bon, bref, j'en parlerai des heures. Alors, donc, 8% de femmes. On est un peu en dessous de la parité, on est un peu en dessous des 50%, on va pas se mentir.
Oui.
Mais on est en 80. En 80, les hommes sont des salauds et fiers de l'être. En 2021, les hommes sont toujours des salauds, mais on a un peu honte. Mmh. Vous voyez, mesdames, comment on progresse vite? Excusez-moi, Thomas, mais attendez, il y a des jeunes énervés en bas de chez moi. Ils jouent autour de ma bagnole. Hé, hey, on a dit couvre-feu, pas foutre le feu, hein, petit con. Pas la Xantia tunée, là. L'autre bagnole. Foutez le feu à l'autre. Merde. Oh.
Bon
ben, Thomas, je crois que je vais rentrer en train.
Ouais, ouais, je pense que c'est mieux. Alors, je viens de regarder Nicole Questiot, elle a été ministre de la Solidarité nationale entre 80 et
bien
82.
Bien sûr. Ouais. C'est ça. Nicole et Edith Cresson.
Qui était premier ministre en 80 de Mitterrand? Oh, ça c'est.
Alors, c'est Pierre Mauroy.
Oh, mais il est incroyable, ce Cavrivière.
Bah, plus dur.
Demain, qui sera là à votre place?
Valérie Trierweiler.
Okay. Non, on peut rien faire. Vous êtes
incollable.
Plus fort. Ouais, non, vous êtes
je reviens
fort.
Jeudi.
Je reviens te chercher. Allez, merci beaucoup, Philippe Cavrivière. Dans un instant.
Allez, gros poutou.
Dans un instant, c'est un autre impertinent qui sera avec nous, François-Olivier Gisbert. Plus libre que jamais, il publie un roman avec un joli cochon tout rose en couverture. Ça s'appelle Rien qu'une bête. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Il est partout et surtout là où on ne l'attend pas. François-Olivier Gisbert publie un nouveau roman chez Albin Michel. Il s'appelle Rien qu'une bête et on trouve en couverture un joli petit cochon que vous voyez sur RTL.fr si vous nous regardez. Cochon qui nous observe du coin de l'œil. Bonsoir et bienvenue à vous, François-Olivier Gisbert.
Bonsoir, Thomas Soto.
Ce livre, c'est l'histoire de Charles. Charles, défenseur acharné de la cause animale, qui veut faire un grand coup, qui veut marquer les esprits. Il décide donc qu'il va vivre une vie de cochon, mais au sens propre. Il va se faire engraisser comme un cochon. Est-ce que vous êtes sûr que ça va, François-Olivier?
Bah, c'est le problème des romans, quand on écrit des romans, on n'est pas loin de la folie, on est dans une espèce de schizophrénie, j'ai l'impression souvent d'être sur un toboggan, de ne pas contrôler, vous voyez.
Ouais.
J'avais une bonne idée, il y a 10 ans, j'avais cette idée-là, je me suis dit, ça c'est vraiment une bonne idée, ça ferait un film, c'est, vous voyez, c'est une sorte de huis clos, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et cette idée, bon, je ne l'ai pas abandonnée, parce que j'avais d'autres projets que j'ai fait les uns après les autres, et puis là, bon, souvent je me dis, ça y est, faut le faire. Et là, bon, moi je suis un écrivain traditionnel, j'ai besoin de raconter des histoires avec des personnages. C'est peut-être pour ça que ça marche, d'ailleurs.
Ouais.
Et pas du tout de me la péter. J'ai besoin de deux personnages. Et ces personnages, en fait, c'est eux qui me dictent. l'histoire. Et à la fin, bah, je m'emballe. Ça part.
Ouais, vous emballez,
et
hein.
Il s'échappe. Oui. Et je contrôle plus rien. Vous voyez, par exemple, ce livre, vous allez me dire, je suis un défenseur de la cause animale.
Oui.
Bah, reconnu.
C'est mais... ce qu'il nous raconte, ce livre, c'est ça. Parce que rien oui. n'est jamais gratuit avec vous, François.
Oui, bien sûr. Mais je suis un défenseur de la cause ouais. animale. Ouais, ouais. Mais vous voyez, là, le coup est foiré. Parce que j'ai fait des essais sur la cause animale. Ouais. L'animal est une personne, tout ça. Bon. Mais un manifeste pour les animaux avec mes potes Michel Onfray, ouais. Boris Cyrulnik et Elisabeth de Fontenay. J'ai fait tout ça, mais là, un roman, c'est, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive ? Bah, deux des personnages principaux, qui sont véganes,
végétariens, pas toute la
ils
fin,
sont horribles. Mais ouais. Non, mais ils sont moches.
Ah, ils sont horribles. Ils sont
ils
monstrueux.
Sont moches. Et c'est-à-dire,
ils sont d'une perversité, bah, d'une cruauté absolue avec ce pauvre Charles qui vit un enfer. Hein. Voilà. Il décide de se faire engraisser. Il va prendre des dizaines de kilos. Quoi. Voilà. Il vit à quatre pattes.
Voilà, exactement. Si j'avais voulu écrire un livre, vous voyez, un livre à thèse pour démontrer ça, bah, j'aurais complètement foiré mon coup. Ouais. Et je le savais au départ, parce que le roman, c'est autre chose. Le roman, c'est une aventure. Vous voyez, on écrit ses livres comme c'est une formule de mon maître Julien Gray, il disait toujours, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est ça un peu, vous voyez. Et ça va de plus en plus vite parce que je veux connaître la fin de l'histoire.
Et c'est aussi une déclaration d'amour au monde paysan, ce livre.
Bah oui, parce que j'aime les... Moi, j'étais élevé à la ferme. Hein. Ouais. C'est pas le cas de tous mes confrères journalistes, je sais. Mais mes parents, qui étaient bio-bobos avant l'heure, ils achetaient...
Pensez grosse... toujours qu'il y a une opposition entre les rats des villes et les rats des champs, vous
toujours... Oui, bien ouais. sûr. Toujours, toujours très fort. Et quand vous avez vécu à la ferme, comme c'est mon cas, mais c'est des parents bio-bobos, attention. Ouais. Mère prof de philo, père artiste peintre, c'était... Et j'ai vécu au milieu des animaux, quoi. Et on vivait comme des fermiers. Et c'est vrai que ça donne peut-être une force. C'est-à-dire, on a un rapport différent au cosmos, à la mort, à plein de choses. Moi, j'ai ça. Je suis arrivé, comment dire, quand je suis monté à Paris, et je suis resté toujours, ça fait rire mes gosses, puis je suis resté toujours un plouc, parce que j'adore mettre mes bottes, et puis même, la pluie ne m'a jamais gêné. Et c'est vrai que ça, je me suis aidé beaucoup de tout ça, de mon expérience. Évidemment, du travail que j'ai pu faire quand j'ai fait mes essais, ou même des articles sur la cause animale, dans les abattoirs, dans les... tout ça, je connais tout ça bien. Mais en même temps, c'est vrai aussi que j'avais, quand j'étais gosse, il y avait des porcheries à côté de la ferme, ouais. et j'avais des amis cochons.
Et vous
des amis cochons,
oui, c'est-à-dire,
on va les voir, ils me reconnaissent.
Oui, non, mais attendez. Et vous parlez cochon, un peu ou...
ben, non, mais non. Le cochon, il est... Vous savez, on rigole, vous rigolez comme ça, mais c'est plus intelligent qu'un chien. Attendez, j'adore les chiens, c'est pas le sujet. Puis on va pas faire un concours d'intelligence, mais dans l'intelligence, le porc, il a cette particularité, c'est que vous mettez un miroir devant, il sait tout de suite que c'est lui.
Il se reconnaît.
Le chien, il va pas se reconnaître. Il sait pas qui c'est. Il croit que c'est un ennemi, un copain. Il sait pas trop.
François Gilbert, il paraît que vous êtes végétarien, mais contrairement à tous ceux qui ont cédé à la mode, vous, ça date pas d'hier. Ça date de Rosette. Racontez-nous.
Oh, c'est une histoire atroce. Oui, c'était.
Pardon.
C'est une histoire atroce. C'était un chevreau qui était devenu bouc, en fait, qui s'appelait Perdican, parce que j'avais une chèvre. Mes parents m'avaient offert une chèvre, et puis qui donnait des petits régulièrement. Et d'ailleurs, elle n'a plus mis bas après. Je voulais plus entendre parler de ça. C'est trop horrible. Et ce petit bouc, en fait, il avait la particularité de semer un peu la terreur dans le quartier. Notamment, il a fait tomber le facteur 2-3 fois. C'était un peu embêtant. Bon. Et puis, il commençait à sentir mauvais, comme tous les boucs. Mais ça, c'était pas grave. Puisqu'on vivait à la campagne, c'était pas dans la ferme, c'était en pleine campagne, à côté d'Elbeuf, au bord de la Seine. Et il y a eu un conseil de famille, mon père, ma mère, et puis ma mère a dit, bon, ben, on va le donner. Et mon père a dit, non, on peut pas. Il faut le faire tuer. Parce que si on le donne, il sera tué dans des conditions abominables. Là, on va faire venir un boucher qui fera ça très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Et je dois dire, c'était une grande épreuve quand j'ai vu le corps de Perdican, enfin la moitié, parce que le boucher avait pris l'autre moitié, quand j'ai vu le corps de Perdican dans le frigo le lendemain. Et c'est vrai, à partir de là, le végétarisme a commencé. Alors, pas complètement, parce que les bovins, c'est venu assez vite après.
Ouais.
Mais bon, d'abord, il y a les chèvres, les moutons. Après, évidemment, quand je suis monté à la ferme, on avait des vaches. Et je pouvais pas manger de la vache quand on a connu des vaches. Et même chose avec les cochons. J'avais des amis comme Chon, comme je veux dire, dans le coin. Et notamment une truie qui s'appelait Bernadette, qui était vraiment très sympa.
Pas de message politique.
Ah non, d'accord. Non, balance ton porc, vous allez me le faire.
Pas du tout.
C'est
un livre qui est loufoque, qui est très agréable à lire, qui est vraiment, moi, que je vous recommande. Je me suis régalé, je me suis promené dessus. Voilà.
Écoutez, j'ai essayé de faire, vous savez, ce que là, pour ce type de livre, on a forcément des maîtres. Moi, je cache pas que j'ai des maîtres.
Il y a marqué en dessous, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman.
Ouais, et Stephen King, je trouve qu'il y a ça chez lui dans certains livres, pas tous. Ses livres, disons, quand il parle du surnaturel, avec d'ailleurs très copié, plagié par certains grands écrivains français d'ailleurs qui vendent beaucoup de livres. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le Stephen King, vous savez, de Misery, et souvent cette espèce d'horreur, ce que j'ai fait, un livre d'horreur, mais qui provoque le rire, et puis qui fait réfléchir en même temps derrière, parce que je pense qu'on réfléchit.
Évidemment. Alors, vous avez une plume qui est très vive. Vous,
ouais, bah, je travaille, hein, attention, un autre livre, ça n'a pas l'air comme ça, mais je bosse. Hein.
Sur votre ami intime, Bernard Tapie, qui sortira dans un mois, on aura l'occasion d'en reparler.
Ah oui, puis une histoire de la Ve République aussi. Ouais,
mais juste sur Tapie, qu'est-ce qu'il fait tenir ? Son procès en appel a repris hier, il était là, malgré la maladie qu'il ronge, il est là. Il est indestructible, Bernard Tapie, qu'est-ce qu'il fait tenir ?
C'est complètement dingue. C'est une énergie vitale, moi j'ai jamais vu ça, enfin, c'est inimaginable. C'est-à-dire que, et en plus, il faut savoir, parce que pour imaginer la souffrance et le courage, c'est qu'il ne prend pas d'antidouleur. Ouais. C'est-à-dire, il est quand même très mal, et il tient debout.
Il se sent indestructible ?
Ah, pas du tout. Pas non. Du tout. Mais il tient, si vous voulez. Pas d'antidouleur, c'est la règle. Et puis, une scène qui est dans le livre, tiens, c'est un petit scoop, mais c'est une scène qui a été racontée par son fils Laurent, qui m'a raconté qu'il était allé le voir après son opération, juste après son opération. Il sortait de réanimation, il le voit, il le surprend. Qu'est-ce qu'il faisait dans son lit ? Des pompes. Voilà, ça c'est Tapie. C'est Tapie en permanence. C'est-à-dire, il ne lâche pas l'affaire. Que ce soit contre le cancer, que ce soit sur la justice, que ce soit sur tous les sujets. Et c'est évidemment un spectacle absolument fascinant.
Il a peur de mourir ou pas, Tapie ? Il a peur de mourir ?
Je ne suis pas sûr, je ne pense pas qu'il se pose la question. Il tient. C'est son truc, quoi. Il résiste, vous voyez ? C'est ça, c'est une façon de... en plus, comme il est croyant, il est très croyant, je ne suis pas sûr qu'il ait du tout la peur au ventre, du tout. C'est pas l'impression qu'il donne. Et d'ailleurs, je vais vous dire, s'il avait peur, il n'en parlerait pas aussi facilement comme il peut le faire. Enfin, en tout cas, à moi, il en a souvent parlé comme une chose naturelle. Quoi.
On aura l'occasion d'en reparler. Oui, vous viendrez nous parler de ce livre. Merci beaucoup, François-Olivier Gibert. Merci. Là, on parlait du roman qui s'appelle Rien qu'une bête et qui est donc sorti qui vient de sortir chez Albin Michel. Merci d'être venu nous voir.
Merci. À vous.
Dans un instant, la météo. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto, RTL Soir.
Eh bien, je crois que c'est l'heure de la météo avec vous, Peggy. Demain, oui. La pluie revient.
Exactement. Et sur l'ouest, d'abord, entre la Bretagne et la Vendée, avec de fortes pluies sur le Finistère dès le matin. À l'avant, donc entre la Normandie et le sud.